Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir le livre le mieux préservé du monde. C'est vrai ? C'est le livre le mieux préservé du monde. C'est absolument extraordinaire. J'ai presque envie de vous parler de ça, mais non, je ne vais pas le faire. Mais ouvrez vos Bibles dans l'épître de Jacques. Et nous allons lire au chapitre 4, les versets 1 à 10. Donc Jacques 4, et nous entendrons la lecture des versets 1 à 10.
Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. » Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. » Et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
L'orgueil, lorsqu'il se déplace, ne donne la place à aucun guide. Il va aller tout seul, sans guide. Alors que l'humilité reconnaît notre totale dépendance, et particulièrement face à la parole de Dieu, dépendance du Saint-Esprit, pour la compréhension de sa parole inspirée. Donc ce matin, nous voulons vivre humblement, en demandant à l'Esprit d'agir dans nos cœurs pour comprendre sa parole. Dans notre voyage, au travers de l'épître de Jacques, nous avons terminé la dernière fois avec le verset 18 du chapitre 3. Moi, j'aime bien ce verset. Je vais vous le relire alors, comme ça on l'aura en tête. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Quelle belle perspective. Moi, j'aime bien parler des artisans de paix. Je trouve que c'est un enseignement extraordinaire de pouvoir parler des artisans de paix. Et en fait, j'ai enseigné il y a 10 ans, ici, une série sur les artisans de paix. Alors, c'est vrai que ça fait 10 ans déjà. Alors, c'est vrai que les jeunes et les enfants ont de temps en temps un refresh dans des camps, dans des formations. Et c'est un outil extraordinaire pour gérer les conflits et les relations de manière à toujours chercher la réconciliation, basée sur ce que la Bible nous enseigne. Alors moi, je vous avais parlé à l'époque des 4 E. Oh là là, ça fait un bon bout de temps, ça. Et depuis, l'enseignement s'est étoffé. Et il y a maintenant une main, la main de l'artisan de paix. Et il est question de 5 R basés sur l'Évangile. Bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu, ben voilà, c'est juste un peu une préface. Mais je vais vous donner un petit résumé. Parce qu'on va le prendre avec nous. On veut réfléchir à ça, puisqu'on parle de ces artisans de paix. On verra pourquoi je fais ça aussi par la suite. Un petit résumé. Donc, une main, vous savez, ne peut être utilisée que si elle est reliée encore à un corps vivant. Si elle n'est pas reliée par le poignet à un corps vivant, la main est inutile. Et ce poignet, c'est justement puiser dans l'Évangile qui est une source inépuisable pour la paix. Et là, une action de notre part n'est pas requise, c'est l'action de Christ qui est requise, qui accomplit l'œuvre de rédemption. Et en fait, dans ces artisans de paix, on a des éléments mnémotechniques. Et là, tout commence par R, par rapport aux actions qui est faites. Et là, c'est la rédemption, donc basée sur le texte de 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Et la rédemption, en fait, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est Jésus-Christ. Donc, ce poignet pour vivre l'artisan de paix est lié à Jésus-Christ lui-même et son œuvre. Et toutes les autres actions sont basées sur ce que Christ a fait. Voilà pourquoi elles vont aussi commencer par un R. L'artisan de paix, en fait, va promouvoir l'Évangile, qui est pour lui un sujet de fierté, qui le motive à célébrer la paix. Et l'action habituelle de l'artisan de paix, en tout temps, face au conflit ou sans conflit, que fait-il en tout temps? Le R1, c'est rendre gloire à Dieu. Il rend gloire à Dieu avec un texte de base, 1 Corinthiens 10, 31. L'artisan de paix est conscient de ses faiblesses. Et cela, Jacques l'expliquera bien dans le texte que l'on aborde ce matin. Donc l'artisan de paix profite de l'Évangile aussi, pour lui-même. Il profite de l'Évangile et ainsi promeut une façon de vivre qui sème la paix. La première action face à un conflit, c'est le R2, c'est retirer sa poutre. Retirer sa poutre. Et il, donc retirer sa poutre, c'est se repentir, donc c'est comprendre que l'on pêche, ça on le verra aussi aujourd'hui, et se repentir. Et il se repent selon les 7 A de la repentance qui libère, avec un texte de base qui est Matthieu 7, 5. L'artisan de paix est également conscient de la faiblesse des autres. Bon, ça vous me dire, c'est la première chose qu'on sait. Hein. Mais non, on a déjà eu d'autres choses. Il rend gloire à Dieu, enfin, il est conscient qu'il est lié à l'œuvre de rédemption, il rend gloire à Dieu, il enlève sa poutre, ça c'est les choses importantes. Et ensuite, ah ouais, c'est vrai que les autres ont aussi des faiblesses, c'est vrai. Aussi, ils partagent l'Évangile. Il partage l'Évangile, un message qui encourage la paix. Et son action, c'est le troisième R, c'est redresser avec douceur. Redresser avec douceur, selon le texte de Galates 6.1. Et son but premier, ce n'est pas de montrer la faute à l'autre, son but premier, c'est qu'il puisse en être libéré. Voilà. Ensuite, cet artisan de paix prépare et aime vivre sa quatrième action. Là, il pratique l'Évangile et permet une libération qui engage à la paix. Le quatrième R, c'est reconstruire par le pardon, en se basant sur Éphésiens 4.32. Ça, c'est un texte qui est juste, ah oh mince, c'est comment on dit, blowing, qui est, je ne sais pas comment on dit ça.
Ébouriffant.
Voilà, ouais, pas mal, ébouriffant. Non, c'est un texte qui est juste extra, il est incroyable parce qu'il nous dit que l'on doit faire quelque chose comme Dieu le fait. Comme Dieu le fait. Enfin bon, je vous laisse regarder Éphésiens 4.32, où là vous allez chercher à vivre le pardon en puisant dans le pardon de Dieu qui fait en fait 4 engagements lorsqu'il nous pardonne. Et dernier, bon, vous avez vu, une main, il y a 5 doigts, donc on arrive au 5e évidemment. L'artisan de paix est conscient qu'une seule victoire face à un conflit n'est pas la fin de la guerre. Parce qu'en fait, il sait qu'il doit persévérer dans l'Évangile et pour vivre l'espérance de la paix en toutes circonstances. Et sa cinquième action est aussi une habitude qui consiste à, commence par R, rechercher la réconciliation. Rechercher la réconciliation en toutes circonstances avec Romains 12, 21. Alors je ne peux que vous encourager à avoir tous ces éléments en tête, les étudier, les vivre, et célébrer la réconciliation parce que la grâce est supérieure au conflit. On va encore parler de ça tout à l'heure, mais revenez. La grâce est supérieure au conflit. Elle est supérieure à l'orgueil aussi. Donc je vous encourage à revoir ces éléments d'enseignement de l'artisan de paix qui sont tirés de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que, bon là j'ai déjà dit ça souvent, mais je continue à le dire, nous débordons de ce que nous remplissons. Donc il faut s'en remplir pour en déborder. Donc vous pouvez regarder de quoi vous vous remplissez, vous saurez de quoi vous déborderez. Quand j'entends donc artisan de paix, ce sont tous ces éléments qui me viennent à l'esprit et je prie Dieu de m'aider à à continuer à grandir dans la manière de le vivre, hein, et de vivre cette, aussi cette magnifique description de la sagesse d'en haut que nous avons étudiée la dernière fois. Parce que le verset 18, il parle de l'artisan de paix, mais le verset 17, il décrit en fait la manière dont il vit cela. C'est selon la sagesse d'en haut. Bon, vous allez me dire que je suis en train de revenir en arrière dans le texte. Non, on va aller en avant. Oui, oui, on va aller en avant aujourd'hui, c'est vrai. Mais je voulais qu'on ait un petit peu ces éléments avec nous. Hein. Et quelle belle perspective, cet artisan de paix. Pourquoi Jacques, il ne s'arrête pas là? Franchement, verset 18, c'est magnifique, tout va bien. Tout serait magnifique avec des artisans de paix remplis et vivants de la sagesse d'en haut. Mais comme on l'a déjà vu, Jacques, il écrit par rebondissement de pensée. C'est-à-dire, il écrit quelque chose, et puis tout à coup, il pense à quelque chose, mais en lien avec ce qu'il vient d'écrire. Il dit, artisan de paix, la paix... Ah, mais attends, il ne sait pas toujours la paix, en fait. Il y a des conflits, il y a des querelles. Puis ça vient d'où? Et puis, en fait, ce n'est pas naturel, cette paix. C'est plutôt naturel, les querelles, la guerre. D'où ça vient? Qu'est-ce qui pourrait même les stimuler? Et pourtant, il y a quand même un espoir extraordinaire en Dieu, non? Hein? Et comment est-ce qu'il agit? Comment nous invite-t-il à agir? Quel en est le résultat? Enfin voilà, c'est toutes des pensées qui arrivent. Et puis, ben, il va répondre à tout cela dans la suite du texte, justement, que l'on va voir aujourd'hui. Et toutes ces questions, on peut y répondre uniquement par la foi. Par la foi. Quelle que soit la réponse que l'on donne aux questions que je viens de poser, vous devez croire quelqu'un ou croire un système de pensée. Mais ce sont toutes des questions auxquelles Jacques nous donne des réponses dans notre texte du jour et en croyant en ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Voilà pourquoi j'intitule mon premier point qui nous permettra de comprendre d'où viennent les luttes. Hein, la foi de comprendre que la chair existe. La foi de comprendre que la chair existe, c'est un premier point. Ensuite, nous voyons que Jacques réfléchit à ce qui pourrait stimuler ces luttes et les nourrir. Et le deuxième point est ainsi intitulé « La foi de comprendre l'incompatibilité entre le monde et Dieu ». L'incompatibilité entre le monde et Dieu. Et à la fin de ce point, en regardant un peu de l'avant, même jusqu'au verset 7, nous pourrons faire le tour des ennemis de notre vie de foi et nous tourner vers un fameux petit mot qui introduira le changement. Un petit mot extraordinaire, c'est le « mais ». Le mot « mais » qui nous conduira vers la grâce. Voilà pourquoi le troisième point sera intitulé « La foi saisit la grâce ». Et nous terminerons ensuite par l'application, la manière de vivre cette grâce, avec un quatrième point, la foi vit l'humilité. La foi vit l'humilité. Et nous verrons même qu'il y a des promesses. Donc je vous encourage à avoir vos Bibles ouvertes dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, et nous allons relire maintenant les versets 1 à 3 pour vraiment nous imbiber de ce texte et ensuite le méditer ensemble. Donc Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. La source des luttes est clairement indiquée par Jacques. Vous avez déjà vu dans ses épîtres, on a déjà fait le constat ensemble, Jacques, il n'attend pas longtemps avant de nous dire de quoi il est question. Il est cash. Il dit tout de suite de quoi il s'agit. La source des luttes est clairement indiquée par Jacques, ce sont les passions qui guerroient dans nos âmes. C'est les passions qui guerroient dans nos âmes. Et le mot traduit par passion, utilisé dans le texte original, est la racine du mot hédonisme, en fait. C'est la recherche du plaisir, la recherche de ce que j'ai envie. C'est ça, en fait, qui guerroie dans nos membres. Les luttes et les querelles entre personnes ne proviennent pas de ce qui est externe, mais de ce qui est interne. Et Jésus l'avait déjà dit. Hein, vous connaissez bien ce texte quand il dit dans Matthieu 15, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Du cœur, de l'intérieur. Et Jacques décrit les actions que ces passions, ces recherches de plaisir, ces « j'ai envie », en fait, accomplissent. Alors là, depuis le verset 2 au verset 3, on voit là toutes sortes d'éléments. J'en vois 6. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, dans le texte. On va les voir un peu ensemble. Voilà. Le premier, c'est vous convoiter. Vous avez vu, là, vous convoitez. La passion « j'ai envie », je l'appelais comme ça on comprend un petit peu. La passion « j'ai envie » est la source de la convoitise, de ce que nous ne possédons pas. Qui, bien souvent, d'ailleurs, va nous faire réagir négativement face à celui qui possède ce que je n'ai pas. Que ce soit quelque chose de matériel ou d'immatériel, que ce soit peut-être son honneur, ses capacités intellectuelles ou sociales ou autres. La passion « j'ai envie » sera la source, en fait, de convoitise de ce que nous ne possédons pas. Il va produire des effets dans nos relations. Deuxièmement, la passion « j'ai envie » amène au meurtre. Vous allez me dire, non, mais attends, moi, j'ai tué personne. Je n'ai jamais tué personne. Tant mieux. Mais j'aimerais quand même nous dire que dans le sermon sur la montagne, Jésus, il est quand même assez clair. Et il dit que si tu dis « imbécile » à ton frère, en fait, c'est encore sympa, hein. Je n'ai pas dit d'autres gros mots, hein. Il dit que si tu dis « imbécile » à ton frère, tu es passible du même jugement que le meurtrier. Ah ouais, la barre, elle est haute, hein. Ou encore un Jean qui dit que si nous avons de la haine pour quelqu'un, pour un frère, nous sommes des meurtriers. Nos désirs passionnés sont bien plus meurtriers qu'ils n'en ont l'air. Troisième élément, la passion pour le plaisir mène à l'envie sans rien obtenir. En fait, il y a toujours de l'insatisfaction. C'est un trou sans fond. On pourrait dire que c'est un nombriliste qui voit un trou sans fond. Jamais satisfait. Quatrième élément, les passions, j'ai envie, poussent à se battre, à contester, à faire la guerre, à se faire entendre. Cinquièmement, les passions, j'ai envie, ne demandent pas. Intéressant, il dit « ne demande pas, demande », il est en train de se contredire. Non, non, simplement, c'est des contextes différents. Vous savez, les passions « j'ai envie » se disent « les autres doivent deviner ce dont j'ai besoin ». Parce que s'ils ne devinent pas, c'est qu'ils ne pensent pas à moi. C'est que je ne suis pas le centre du monde. Qu'ils n'ont encore pas compris, qu'ils doivent réfléchir à ma place pour me donner ce que je veux. Donc, ils ne demandent pas. Et ils ne reçoivent pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne reçoit pas, dans ce cas-là? Du ressentiment contre les autres qui ne m'ont pas donné ce qu'on ne leur a jamais demandé. Il faut commencer à voir tout ce que ça implique dans les relations. Et dernier élément, la passion « j'ai envie » demande, si elle demande, c'est pour... Donc là, je disais, elle ne demande pas, parce que je dois deviner. Et à d'autres moments, elle demande. Et elle demande à Dieu, « Dieu, donne-moi 1000 balles !» Combien d'enfants, et même d'adultes, n'ont-ils pas fait des prières pour demander à Dieu de satisfaire leur envie, et ensuite on dit que Dieu n'était pas fiable parce qu'il ne leur a pas donné ce qu'ils avaient demandé. En s'appuyant sur des versets comme « demandez, vous recevrez », enfin, etc. Mais ces personnes n'ont pas lu Jacques 4, verset 3. C'est très clair. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Ces actions manifestent clairement un centrage sur soi. C'est vrai que vendredi, avec le gage, on a parlé de nombrilisme. Qu'est-ce que c'est? Comment en sortir et comment ne plus le vivre? Mais c'est vraiment ça ici dans Jacques, en fait. Donc je devrais refaire ce que j'ai dit vendredi, mais non, je ne vais pas le faire. Mais avec ce dernier élément ici, de demander même pour nourrir ses passions, nous voyons que les œuvres de la chair, parce que ces passions, c'est aussi appelé les œuvres de la chair ailleurs dans la Bible, on peut aller voir une description dans Galates 5, 19 à 21, va même jusqu'à demander plus pour nourrir des passions contre lui. C'est osé quand même. Demander des choses qu'il ne veut pas. Demander des choses qui sont mauvaises. Un peu comme si un homme ou une femme mariée rencontrait un être exceptionnel et qui demandait à Dieu dans la prière que l'être convoité tombe amoureux d'eux, afin de se sentir désiré, avoir la sensation de bien-être, d'être au centre de l'attention de quelqu'un, alors que leur conjoint, à qui Dieu les a unis, les attend. C'est vrai que quand l'Esprit de Dieu commence à ouvrir les yeux sur nos vies, par l'expérience, nous verrons que les luttes et les conflits que nous avons viennent de l'intérieur. Ils viennent de l'intérieur, de nous-mêmes, de nos passions, de nos désirs. Et par la foi, nous le saisissons pleinement et comprenons que la chute a touché toutes les parties de l'être humain, qui est naturellement, dans ce monde, déchu et guidé par ses passions. Donc, reconnaître d'où vient le problème nous permet ensuite de retirer notre poutre. Tant qu'on ne le sait pas, on ne le fait pas. Mais reconnaître d'où vient le problème nous permet ensuite de retirer notre poutre, car nous comprenons que nous sommes aveuglés par les passions de plaisir, la recherche de bien-être et l'auto-justification hyperactive. Donc ça, Dieu permet qu'on le voie pour qu'on puisse s'en détourner. C'est pour ça que Jacques, il prend du temps pour expliquer tout ça, pour qu'on s'en rende compte. Donc je pense qu'on commence un petit peu à se rendre compte de tout ça, je l'espère en tout cas. Donc nous reconnaissons que les œuvres de la chair sont les causes des conflits. La foi comprend que la chair existe et qu'elle est la source des problèmes. La foi saisit aussi que la chair est complètement centrée sur elle-même, sans aucune place pour Dieu. Et qu'elle est même stimulée par quelque chose d'extérieur, qui s'appelle le monde. La foi saisit que le monde stimule la chair pour être centré sur soi, et que le monde est incompatible avec Dieu. Alors, avant de lire la suite dans le texte, puisqu'on va passer au point suivant, avec les versets suivants, j'aimerais juste qu'on comprenne bien qu'est-ce que le monde. Quand la Bible parle du monde, elle ne parle pas simplement de l'univers ou de la planète Terre. Hein? Donc, il faut qu'on comprenne quand même qu'est-ce que signifie ce terme. Et il me semble que le meilleur moyen pour comprendre ce terme, c'est que la Bible nous l'explique elle-même. Donc, il y a un texte dans 1 Jean 2, verset 16, mais on lira les versets 15 et 16, qui nous permettent de comprendre ce qu'est le monde, quand la parole de Dieu en parle, de manière à démontrer que ce monde est antithétique avec Dieu. Donc 1 Jean 2, 15 et 16. N'aimez pas le monde. Voilà, on comprend là que le monde, c'est quelque chose de mauvais. Donc, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, quelqu'un qui dit ça, il se dit, attends, mais le monde, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont autour de moi, c'est la planète, c'est la nature. Bon, il y a la suite, comme ça, ça sera clair. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Voilà les éléments décrits. Quand on dit n'aimez pas le monde, c'est ces éléments-là qui sont décrits clairement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ou bien si je prends la transcription de la parole vivante pour un petit peu le développer. Donc les mauvais désirs de l'homme livrés à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. Voilà ce qu'est le monde. Donc ayons en tête que c'est ça le monde, en lisant maintenant Jacques 4, les versets 4 et 5. Pour notre deuxième point, la foi comprend l'incompatibilité entre le monde et Dieu. Verset 4, il commence assez fort, comme Matthieu 7, 5, là c'est un autre terme ici. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous ?» On s'arrête là. Le monde est ennemi de Dieu. Aimer le monde, c'est comme aimer l'ennemi de notre conjoint, un ennemi qui lui veut du mal, qui ne lui donne aucune place, qui cherche même à le détruire. En fait, il y a deux choix. Ami de Dieu et ennemi du monde, ou ami du monde et ennemi de Dieu. Vous comprenez l'idée ? Donc, soit ami de Dieu et ennemi du monde, ou ennemi de Dieu et ami du monde. Impossible d'être du Hamas, ami du Hamas et ami d'Israël en même temps. Le Hamas n'a qu'une idée, détruire Israël. Point. Il n'y a pas d'autre idée. Il ne doit pas exister. De même, le monde n'a qu'une idée, éliminer Dieu. En fait, il n'y a pas de choix. Ami de Dieu et ennemi du monde, ou ennemi de Dieu et ami du monde. Mais quelle terrible situation que d'être ennemi de Dieu. Il est dit dans Hébreux 10, 31, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Car si Dieu est contre nous, qui sera pour nous ? Ce n'est pas une citation biblique. Hein. J'y viens, mais... Mais si Dieu est contre nous, qui est capable de résister à Dieu ? Personne. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous ? Évidemment, c'est l'inverse qui va nous encourager beaucoup. Et ça, c'est un texte biblique. C'est Romains 8, 31 qui nous dit « Si Dieu est pour nous, voilà, c'est ami de Dieu, hein, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mais là, la même chose. Qui peut être contre Dieu ? Personne. Personne ne peut se mettre contre Dieu. Dieu est un super résistant tout-puissant. Mais s'il est contre, s'il est contre nous, qui sera pour nous ? Jésus insiste sur cette notion encore qu'il n'est pas possible d'avoir deux maîtres. C'est un élément très clair dans Luc 16, 13 par exemple. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et ici Jacques, vous pouvez servir Dieu et le monde. Bon, vous êtes prêts parce que là, il faut réfléchir. C'est une petite illustration, mais il faut réfléchir. Donc, impossible de descendre et de monter en même temps. Vous avez déjà remarqué ça ? Impossible de descendre et de monter en même temps. Bon, il y a des petits malins qui vont me dire, je vais sur une chaise, je descends sur ma chaise pendant que l'ascenseur y monte. Ouais, d'accord, d'accord. Ça, voilà. Je l'ai faite comme ça, c'est bon. Non, je parle physiquement, je ne peux pas monter et descendre en même temps. Soit vous montez et vous aimez Dieu, soit vous descendez et vous aimez le monde. La position neutre est un mouvement qui n'existe pas dans la vie. Sinon, il n'y a pas de vie, en fait. Et comment pouvez-vous savoir que Dieu et le monde sont incompatibles ? Comment est-ce que vous savez ça ? Comment est-ce que je sais ça ? Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est un élément de foi. Alors, la Bible va plus loin parce qu'elle nous explique des éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi c'est antithétique. Mais c'est la Bible qui nous le dit. C'est par la foi que nous saisissons cette vérité. Jean, dans ses écrits, dans les évangiles et épîtres, développe le sujet concernant le monde, que même le monde a de la haine pour Jésus. Et donc, que le monde a de la haine pour ceux qui sont avec Jésus. Jean 15, par exemple. Si nous aimons le monde tel que décrit dans Jean et que nous avons vu au début de ce point, donc on a vu au début de ce point que c'était le monde de Jean, nous aimons ce qui a de la haine pour Dieu. C'est comme un adultère en fait face à Dieu. Alors pour ceux qui ne sont pas mariés, imaginez que vous êtes mariés. Imaginez que ce soir on frappe à votre porte, que quelqu'un vous annonce qu'il a des preuves indiscutables que votre conjoint vous a trompé. Et qu'il ou elle couche avec une autre personne et l'aime passionnément. Quelle serait votre réaction ? Un sentiment de trahison, de rejet, de profonde blessure. Mais vous savez qu'une seule nuit avec notre propre chair ou avec le monde, c'est un rejet de Dieu ? Lorsque nous voulons quelque chose plus fortement que Dieu, nous sommes adultères et rejetons Dieu. Si je m'arrêtais ici, ça serait triste. Hein. On va continuer. Mais quand même, il faut bien qu'on comprenne ça. Une grande décision est de savoir si nous voulons être amis de Dieu ou amis du monde. Dieu ne tolère aucun concurrent, comme le conjoint est exclusif selon la parole de Dieu. Et là, il prend au verset 5 un élément, Dieu a fait l'homme en deux parties, une partie invisible, spirituelle, le cœur si vous voulez, hein, puis la partie visible, le corps. Après, c'est un peu plus complexe quand on va regarder plus en détail. Hein. Et en fait, Dieu aime jusqu'à la jalousie le cœur de l'homme et il ne tolère aucun rival comme dans un mariage. C'est ce qu'il souligne au verset 5. Donc là, moi, je pensais plutôt à un petit « e » pour l'esprit et pas un grand « e ». Mais ça, c'est question théologique, je ne vais pas prendre maintenant. Dans la semaine qui vient, serons-nous attentifs à ce qui prend notre cœur? Est-ce que ça sera notre chair, le monde ou Dieu? Nous avons bien trop souvent choisi nos passions et ce que le monde nous fait miroiter. Et Jacques le sait bien. Je vous ai dit, il ne fait pas rebond, là. Il est en train de dire ça, puis il se dit, attends, mais si je m'arrête là, c'est fini en fait. On est tous des adultères. Mais il pense maintenant à la provision de Dieu. Il nous apporte un « mais ». Ils sont magnifiques ces « mais-là ». Il y en a quelques-uns dans la parole de Dieu. Un « mais » qui change tout. Dans l'état défait et sans espoir que nous savons dans lequel nous sommes, hein, bien que de tout notre cœur on cherche à mettre Dieu en premier, trop souvent encore nous commettons l'adultère spirituel. Et c'est là qu'on arrive à notre troisième point. La foi saisit la grâce. Et là, c'est le verset 6 qui est extrêmement fabuleux. Mais il donne une grâce supérieure, au-dessus, une grâce supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Mais il donne une grâce supérieure. Ça, c'est une des phrases les plus encourageantes dans la Bible. Mais il donne une grâce supérieure. Là, on vient de voir la grandeur du péché, de l'horreur. Et qu'est-ce qu'il dit ? Mais il donne une grâce supérieure. La grâce est puissante, très puissante, supérieure. Il n'y a que la grâce qui peut nous sortir de notre nombrilisme, de notre façon de vivre centrée sur nous-mêmes, de notre attrait au monde, de nos infidélités. C'est la grâce. Il n'est pas possible de s'en sortir par nous-mêmes, de faire tous ces efforts, de trouver en soi les forces et les capacités d'être délivrés de nous-mêmes. Mais un petit peu là, l'élément est là. C'est... Quel orgueil de penser qu'on peut, par nos propres forces, par nos bonnes actions, nos efforts, nos résolutions, nous affranchir du monde et de notre amour de nous-mêmes. Il y a un peu une ironie là. De dire, ben, quelque part, je fais toujours plus moi-même pour me sortir de moi-même. Ce n'est pas possible. En fait, chercher à faire nous-mêmes, c'est encore nourrir notre orgueil. C'est augmenter le problème. Et pas le diminuer. Nous sommes notre plus grand problème. Et la foi, c'est de reconnaître humblement notre besoin de grâce. Une grâce qui ne vient pas de nous. Une grâce que nous ne méritons pas. Une grâce qui est complètement incompréhensible et incompatible avec notre orgueil, en fait. Cette grâce est supérieure. Elle est supérieure à nos passions. Elle est supérieure à nos infidélités. La grâce est plus grande. Elle est plus grande. Seule la grâce peut nous rendre saints et nous délivrer de nous-mêmes, de nos passions et de notre amour du monde. Cette grâce est supérieure à nos passions, supérieure à nos infidélités. La grâce est plus grande. Seule la grâce peut nous donner, nous rendre saints, nous délivrer de nous-mêmes, de nos passions et de notre amour pour le monde. La grâce, en fait, elle est plus grande que tous nos appétits créés par nos passions. La grâce est plus grande que nos désirs intenses. La grâce est supérieure à nos désirs mauvais, à nos propres justices, à notre appétit d'être adulé des autres. La grâce est supérieure à l'appétit pour la pornographie, la gloutonnerie, la thésaurisation. La grâce est supérieure. Elle est supérieure au désir de vengeance, d'avoir le dernier mot. Il y a plus de grâce que tout cela. Waouh ! C'est notre espérance, hein ? C'est notre espoir. Il y a plus de grâce que toutes nos faiblesses et nos égarements. Il nous donne plus de grâce. Vous avez déjà vu les vagues de la mer ? Ça va et ça revient. Ça va et ça revient. Ça va, et... ça va, vous comprenez ? C'est tous les jours, toutes les années, pendant très longtemps. Encore et encore, rien ne peut vider l'océan. Il va et ça revient. Et ce n'est qu'une faible image de la grâce supérieure que Dieu donne. Rien ne peut vider cette grâce qui est supérieure. Saviez-vous que la plus grande chute d'eau d'Europe se trouve en Suisse ? Eh oui, la plus grande chute d'Europe se trouve en Suisse. Chute d'eau, hein ? Et c'est les chutes du Rhin. Et si vous vous placez vers ces chutes du Rhin, vous pouvez regarder l'eau se déverser. Moi, je trouve que c'est assez fascinant hein, quand on regarde l'eau se déverser. Ils disent à peu près 600 mètres cubes seconde, c'est pas mal. Enfin, je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais c'est beaucoup d'eau. Chaque seconde, de l'eau, de l'eau, de l'eau, beaucoup d'eau. Et je vous encourage, si vous allez voir ces chutes, par exemple, ou d'autres chutes, hein, mais ça, c'est des chutes où il y a beaucoup d'eau quand même, souvent. Rappelez-vous, en voyant cette eau qui coule, que la grâce de Dieu est supérieure. Elle est supérieure. Vous n'avez plus envie de vous battre contre les tentations sexuelles et ce désir d'être supérieur aux autres ? Mais mes chers frères, il donne une grâce supérieure. Désespéré de vous battre face à la tentation de plaire et cette jalousie tenace ? Mais mes chères sœurs, il donne une grâce supérieure. Vous en avez marre de constater que l'auto-justificateur, le pharisien trop bien réveillé et monsieur recherche de confort personnel ne cesse pas de critiquer ? Mais mes chers frères et sœurs, Dieu nous donne une grâce supérieure. La foi saisit la grâce, elle s'y accroche et s'en abreuve, la distribue et vit le changement de désir, la transformation des passions pour ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Vous avez soif de cette grâce ? Vous voulez prendre un peu d'eau des chutes du Rhin, si vous voulez ? Eh bien, vous devez avoir un récipient pour le puiser. Et si ce récipient, prenons un gros bol, est plein de béton, ça sera difficile de prendre de l'eau. Comme un cœur plein d'orgueil ne peut recevoir la grâce, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi nous passons au point suivant. Dans les versets 7 à 10, nous voyons que la foi qui saisit la grâce vit l'humilité. Ça va ensemble. C'est inséparable. Alors, lisons les versets 7 et suivants. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » En fait, Jacques, dans cette partie-là, souligne comment vivre l'humilité. Et je soulignerai trois facettes dans ces quelques versets ici. La première facette, c'est « soumettez-vous à Dieu » et le résultat, c'est que vous résisterez au diable. Plus il fuira loin de vous. « Soumettez-vous » et le résultat sera de résister au diable. On y revient. Deuxième élément, « approchez-vous de Dieu » et le résultat, c'est quoi ? Dieu s'approchera de vous. Et troisièmement, purifiez, nettoyez, reconnaissez, pleurez sur vos péchés, et le résultat sera Dieu vous élèvera. Donc, premier élément, se soumettre à Dieu. Alors, on imagine parfois que résister au diable, c'est gonfler ses muscles, se remplir de motivation et de zèle, et d'attaquer l'ennemi. C'est ça, en fait, vous êtes d'accord ? Oui, c'est peut-être l'idée qu'on a. Mais cette manière d'agir ressemble plus à un acte d'orgueil qu'un acte d'humilité. Non, résister au diable, ce n'est pas lui donner de l'importance. C'est donner ni de l'importance à notre force. C'est donner de l'importance à Dieu. C'est se soumettre à Dieu. C'est recevoir sa grâce supérieure en reconnaissant sa faiblesse. C'est ça, résister au diable. C'est pas prendre des armes et puis essayer de... Non. Résister au diable, c'est se nourrir de la grâce. Résister au diable, c'est se nourrir de la grâce. Parce qu'il m'a toujours dit, « Oh non, mais t'es trop mauvais, t'es trop mauvaise. » Non. La grâce est supérieure. Résister au diable, c'est se nourrir de la grâce, humblement reconnaissant pour l'œuvre de Christ qui a souffert pour nous délivrer, avec un saint respect et une soumission à Dieu. Évidemment, on va se soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est dire « Oui, tu as raison, je suis mauvais, je suis pécheur. » Il l'a dit, « Je me soumets à ce que tu dis. » Mais non seulement je me soumets à ce que tu dis là, je me soumets quand tu dis « Venez à moi !» Je me soumets lorsque tu dis « Christ a tout payé !» Oui, je me soumets. Résister au diable, c'est ne pas écouter ses mensonges qui disent « Mais tu es tellement mauvais, Dieu ne t'acceptera plus. » Et si ça ne marche pas, vous savez ce qu'il fait ? Il change de tactique. Ah ouais, lui, il change tout le temps de tactique. Et il dit « Ok, ça ne marche pas chez toi, ça, je vais essayer autre chose. » Mais il y a tant de grâce, c'est un encouragement au mal en fait. Il y en a tellement qu'en fait, ça encourage les gens à faire le mal. Donc tu ferais mieux de prendre des bonnes résolutions et juger ceux qui font le mal. N'écoutez pas ces mensonges. Humblement, abreuvez-vous de la grâce supérieure de Dieu. Ainsi, nous pourrons dire, là je prends le texte un peu plus long, dans Romains 8, hein, « Que dirons-nous donc à son sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède. » Pour nous, tout est dans sa main. C'est pas très logique dans nos têtes. Hein. On se dit, quand il y a la guerre, il faut qu'on aille se battre, quoi. Qu'on sorte les fusils, pouf, puis on y va. Hein. Pourtant, Jacques, conduit par le Saint-Esprit, nous dit, soumettez-vous. C'est Dieu qui a raison. Si nous y croyons, nous ne croirons pas aux mensonges du diable. Et ainsi, nous y résisterons. Ce n'est pas l'orgueilleux qui terminera par être élevé, c'est celui qui est humble. Ensuite, il est parlé de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est reconnaître qui il est. Quand on s'approche de Dieu, on reconnaît qui il est. Sinon, vous ne vous approchez pas de lui, vous approchez d'un autre Dieu, d'un Dieu fabriqué personnellement. S'approcher de Dieu, c'est s'approcher de ce Dieu qui est décrit dans la Bible, qui dit qu'il est au-dessus de nous, qu'il est saint, pur, parfait, aimant. S'approcher de Dieu, c'est accepter qu'il a toujours raison. Il a toujours raison. C'est lui qui fait complètement et totalement juste, et c'est à lui que nous voulons complètement et totalement faire confiance. C'est ça, nous approcher de Dieu. Et ce n'est possible que dans l'humilité. Parce que sinon, on dit, mais non, j'ai quand même un peu raison, franchement. Oui, il connaît beaucoup de choses, mais ce n'est pas exactement ce que je vis là maintenant. Franchement, ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas évident. On n'est pas en train de minimiser que ce n'est pas évident. Mais il le sait. L'orgueil ne reconnaît pas la place de Dieu. Il prend sa place. L'orgueil n'accepte pas que Dieu a toujours raison. Il veut corriger même sa parole. Ça existe. Les gens qui corrigent sa parole. Mais qui disent, ouais, c'est écrit ça, mais ça ne veut pas dire ça. Dieu, il n'est pas tout puissant quand même. Avec tout le mal dans le monde. Enfin, bon, je ne vais pas faire tout le truc, mais c'est... Et pourtant, Dieu est tout puissant. Il y a le mal dans le monde aussi. Je ne vais pas résoudre la question maintenant ici, mais c'est un élément important à saisir. L'orgueil ne fait pas confiance à Dieu. Il dit ce qu'il devrait faire. L'humble, au contraire, donne la place à Dieu, de qui il s'approche avec crainte. L'humble, au contraire, donne la place à Dieu, de qui il s'approche avec crainte. Il se laisse corriger par la parole de Dieu et veut agir comme il le demande. Il donne la place à Dieu, il se laisse corriger par la parole et il veut agir comme il le demande. Ce n'est pas l'orgueilleux qui terminera par être élevé, étant proche de Dieu, mais celui qui est humble. Et je vous assure que d'être proche de Dieu, ou que Dieu est proche de nous, c'est une élévation, personne ne peut être au-dessus de cette élévation-là. Et dernier élément, purifier, nettoyer, reconnaissez, pleurer. Pour purifier, il faut reconnaître qu'il y a de l'impureté. Seul celui qui est humble fait cela. L'orgueilleux, il cache, il fait semblant qu'il n'y a pas d'erreur, il fait croire qu'il n'a aucune responsabilité. Celui qui est humble reconnaît sa responsabilité et ainsi comprend qu'il a besoin de se purifier. Et que fait-il ? Il court vers la grâce supérieure, la grâce pour être libéré de l'impureté. Celui qui est humble reconnaît sa responsabilité et ainsi comprend qu'il a besoin de se purifier. Il court vers la grâce pour être libéré. Et je vous assure que d'être libéré, c'est vachement mieux que juste caché pour que les gens ne voient pas. Quand on réfléchit juste 42 secondes, non peut-être pas, même pas, 7 secondes. Franchement, vous aimez mieux être libéré ou bien juste qu'on cache les choses ? Simplement, pour être libéré, ça passe par l'humilité, parfois même l'humiliation. Mais on est libéré. Celui qui est humble est conscient que son cœur, excusez-moi du terme, mais est dégueulasse, rempli de passions mauvaises en lui-même. Et celui qui est humble reconnaît qu'il est trop souvent attiré par le mal, partagé entre le mal et le bien. L'orgueilleux dit, mais écoutez ce qu'il dit, un chrétien ne pêche plus, ou en tout cas, pas trop. Un chrétien, il est mieux que les autres. Ça, c'est l'orgueilleux qui dit ça. Et ce n'est pas pour rien donc qu'on entend, malheureusement, encore trop souvent, des gens qui disent les chrétiens, c'est des hypocrites. Ben ouais. Si vous dites autour de vous qu'un chrétien il est mieux que les autres, ben, on est des hypocrites. Parce que les orgueilleux disent que les chrétiens sont meilleurs et ne nettoient rien, alors que les humbles reconnaissent la saleté, le besoin de grâce. Et s'il peut parler d'une différence avec ceux qui ne sont pas chrétiens, l'humble dira que celui qui a la foi reconnaît son péché. Ça, c'est la différence. Il reconnaît son péché. Il se précipite vers la grâce pour un nettoyage transformant, conscient que ce nettoyage ira toujours plus profond et que la grâce ne manquera jamais. Et je vous assure que plus vous grandirez dans la foi, et plus vous verrez comme le pire des pécheurs. Ce n'est pas parce que vous devenez pire, c'est parce que vos yeux s'ouvrent. Et là, rappelez-vous, la grâce est supérieur. Celui qui est humble pleure face à son péché. C'est vrai que l'orgueilleux pleure aussi parfois. Mais il pleure les avantages qu'il perd lorsqu'on découvre la faute qu'il n'a pas pu cacher. Mais il ne pleure pas pour le péché. Il pleure pour les conséquences et d'avoir été découvert. Habituellement, l'orgueilleux rigole de ce que les autres ne voient pas. Il ne voit pas qu'il est mauvais, mais c'est bon, tout le monde croit que je suis bien, Et même de plus en plus, il rit même dans ses fautes, allant jusqu'à dire que si la grâce surabonde, c'est le boulot de Dieu de pardonner. Moi, mon boulot, c'est pécher. C'est m'amuser. Mais celui qui est humble pleure d'avoir offensé Dieu. Il fait face aux conséquences de son péché, triste d'avoir fait mal à son bien-aimé. Et il accepte la justice et la réparation comme un moyen de glorifier celui qui l'a offensé. Non pas parce qu'on peut obtenir le pardon en réparant, non. Ça, c'est l'orgueilleux qui, quelque part, se fera souffrir pour montrer combien il a payé pour ses fautes. Non, ce n'est pas possible. C'est Christ qui paye. Mais celui qui est humble va aussi vivre ce désir de corriger ce qu'il peut, de rattraper ce qu'il peut, de réparer ce qu'il peut, mais comme un acte d'amour gratuit et de reconnaissance pour le pardon reçu. Vous savez, ce n'est pas l'orgueilleux qui terminera par être élevé dans la pureté, mais c'est celui qui est humble, reconnaissant son besoin d'être purifié et nettoyé. Il y en a plusieurs qui connaissent ce passage de Michée 6:8. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ah oui, il y a un petit chant qui va avec. Hein. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit. Bon, là, c'est la justice dans le champ, mais ça va aussi. Le droit, que tu aimes la loyauté, que tu marches humblement devant ton Dieu. Marcher humblement, c'est connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de nous. Comment est-ce qu'on peut connaître ce que Dieu demande de nous et ce qui est bien ? Ça vous arrive d'ouvrir un livre qui est très vieux et qui est très actuel ? C'est comme ça. C'est en ouvrant notre Bible qu'on peut marcher humblement. Marcher humblement, c'est pratiquer le droit et aimer la loyauté. Faisons ce qui nous est demandé sans chercher de détour cette semaine. Tenons parole pour marcher humblement. Et marcher humblement, c'est ne pas cesser de recevoir la grâce de Dieu. C'est ça, marcher humblement. C'est ne pas cesser de recevoir la grâce de Dieu. Et j'aimerais terminer avec une très courte conclusion. Elle est vraiment courte, parce que c'est qu'une phrase et c'est une question. Cette semaine, allons-nous démontrer notre foi en la grâce en vivant humblement ? Cette semaine, allons-nous démontrer notre foi en la grâce en vivant humblement ? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes ce matin face à un texte. On a l'impression qu'il y a un chirurgien qui vient ouvrir nos cœurs et qui les met à nu et qui montre la gravité de la situation. Et nous voyons que ce chirurgien ne le fait pas pour nous faire mourir, mais pour que nous saisissions ce qui nous guérit. Et nous te louons et t'adorons pour cette grâce qui est surabondante, cette grâce supérieure, comme nous l'avons vu ici, cette grâce qui est donnée aux humbles. Éternel, nous te prions de nous donner cette grâce. Nous en avons besoin. Pardon pour les fois où notre orgueil a voulu venir auprès de toi avec un gros gobelet rempli de béton en disant « Donne-moi à boire ». Pardon, Seigneur, nous voulons vider cela. Nous ne voulons pas prendre quelque chose à notre avantage. C'est toi qui as tout accompli en Christ. Et nous voulons entrer dans les œuvres que tu as préparées pour nous. Nous en réjouir, le transmettre, parler de la véritable transformation et libération que nous avons en Jésus-Christ, non pas en minimisant les péchés, mais en maximisant ta grâce qui est supérieure. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.